Alors, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil au texte qu'on va lire et étudier ce soir, mais c'est un de ces textes que beaucoup de gens aimeraient ne pas voir figurer dans la Bible. Ce sont des textes comme celui-ci qui ont valu à l'apôtre Paul sa réputation d'obscurantiste, machiste et misogyne. Et en abordant ce texte aujourd'hui, je cours un risque, je vais vous le dire honnêtement, je cours un risque, c'est que plusieurs d'entre vous, à l'issue de ce message, n'ayez plus envie de remettre les pieds dans notre Église. J'espère honnêtement que ce ne sera pas le cas, évidemment. Mais je ne vais pas vous mentir, le message de ce soir va clairement à l'encontre de la pensée de notre société sur un sujet épineux qui attise les passions même au sein de l'Église chrétienne et qui est celui de la différenciation des rôles et des devoirs respectifs des hommes et des femmes. Ah bon, parce que les hommes et les femmes sont censés avoir certains rôles et certains devoirs qui leur sont propres? Ah ben, oui. D'après la Bible en tout cas. Et le texte qu'on va lire dans un instant parle spécifiquement du rôle et du devoir des femmes. Mesdames, mesdemoiselles, je sais qu'il est délicat pour un homme de parler du rôle et du devoir des femmes. Et cette seule réalité, cette seule situation fait que vous êtes probablement déjà maintenant sur la défensive. Mais s'il vous plaît, prenez quand même le temps de réfléchir à deux questions sincères, d'accord? Et j'aimerais vous les poser, ces questions. Prenez le temps d'y réfléchir, s'il vous plaît. À quoi ressemble, et si vous êtes un homme, réfléchissez aussi à ces questions, à quoi ressemble, dans votre esprit, la femme idéale? De quoi est-ce qu'elle a l'air, dans votre esprit, la femme idéale? Et la deuxième question, qu'est-ce qui conditionne l'idée que vous avez de la femme que vous aspirez à être, si vous êtes une femme, bien entendu. Qu'est-ce qui conditionne l'idée que vous avez de la femme que vous aspirez à être? En 2008, un sondage a révélé que pour une majorité d'hommes, la femme idéale, écoutez bien, c'est important, la femme idéale, elle est brune aux yeux verts, cheveux longs, petite bouche, visage ovale, peau ambrée, elle est de taille moyenne, pas trop maigre, elle porte habituellement une jupe, des chaussures à talons et des bijoux, et elle dégage, paraît-il, un air espiègle. Espiègle. Je chercherai dans le dictionnaire. Si c'est à ça que vous ressemblez, mesdames, mesdemoiselles, sachez qu'aux yeux d'une majorité d'hommes, vous êtes très belles. Dommage pour vous si vous êtes blonde aux yeux bleus et que vous avez décidé de porter un jean et des baskets aujourd'hui. Mais franchement, qu'est-ce qui doit conditionner, pour ne pas dire définir, vos aspirations en tant que femme? Est-ce que ça devrait être les sondages des magazines féminins, comme celui-ci par exemple? Est-ce que ça devrait être les films à l'eau de rose? Ou bien les revues People? Ou bien le discours des politiques? Qu'est-ce qui doit conditionner ou définir vos aspirations? Moi, si je peux me permettre, je vous conseille, humblement, de consulter l'inventeur même du genre féminin. L'inventeur même du genre féminin. Je ne parle pas d'un créateur de mode, mais du créateur de l'univers. Il a de précieux conseils beauté à vous donner. Ne pensez-vous pas que si Dieu nous donnait sa définition de la beauté et de la féminité, c'est cette définition-là qui devrait conditionner notre idée de la femme idéale? Vous allez voir qu'il y a une leçon dans ce texte qu'on va lire, une idée que j'aimerais que nous retenions, et c'est la suivante. Et cela, entre parenthèses, s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La seule beauté qui compte, c'est celle que Dieu vous trouve. La seule beauté qui compte, c'est celle que Dieu vous trouve. Alors regardons ce que Dieu a à dire à ce sujet dans ce passage, et j'espère que vous allez voir ce soir que ce que Dieu veut pour vous, en particulier, mesdames et mesdemoiselles, c'est que vous soyez objectivement les femmes les plus belles du monde, car belles selon Dieu. Alors lisons le texte. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 9, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons ni ne voulons nous dérober à ce que ta parole a à nous enseigner. Et ce soir, nous plongeons les regards et notre attention dans un texte qui prête à controverse. Nous le savons, nous le confessons. Bien souvent, ces controverses sont dues au fait que ta parole nous prend à rebrousse-poil. Seigneur, s'il te plaît, permets que nous ayons au moins une bonne attitude devant ta parole, que nous soyons ouverts et disponibles à tout ce que tu veux nous enseigner. Permets que la vérité prenne racine dans nos cœurs, mais que tout ce qui ne vient pas de toi, nous puissions l'oublier aussi vite que possible. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a trois principes importants que Paul veut nous livrer dans ce passage. Le premier de ces principes, c'est celui qu'on trouve au verset 9 et 10. C'est le suivant. L'apparence extérieure d'une femme doit honorer Dieu. Je relis les deux versets, 9 et 10. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Comment Paul s'y prend-il pour nous faire comprendre que l'apparence extérieure d'une femme doit honorer Dieu? Eh bien, il oppose deux modèles, deux looks, pour ainsi dire, d'accord? Deux modes féminines. D'un côté, la mode gréco-romaine de son temps. De l'autre côté, la mode qu'on pourrait qualifier de mode chrétienne, tout simplement. Paul est en train de dire qu'il y a une apparence qui convient aux chrétiennes, d'accord? Et une apparence qui ne leur convient pas. C'est aussi simple que ça. Paul affirme que l'apparence extérieure d'une personne n'est pas une question neutre ou anodine. C'est pas inimportant. Parce que l'apparence communique quelque chose. L'apparence, c'est un message qui est délivré. N'est-ce pas? L'apparence communique quelque chose. Dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es, disent les sociologues aujourd'hui. La mode gréco-romaine, avec ses perles, ses tresses, ses belles robes, etc., l'or, les perles, etc. La mode gréco-romaine parle d'orgueil, de richesse, de volupté. Mais les mots-clés de la mode chrétienne, ce sont ceux que Paul emploie, décence, pudeur, modestie et œuvre bonne. Mesdames et mesdemoiselles, si vous faites profession de piété, c'est-à-dire si vous vous dites chrétienne, avez-vous déjà réfléchi à ce qui est censé être pour vous et d'après la Bible une parure convenable, une parure convenable. C'est ce que ça veut dire, une parure, une apparence, un look, ou une façon de se décorer, de se maquiller, de s'orner. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui constituait pour vous une parure convenable selon Dieu? Il y a des gens qui disent, oui, mais attends, l'apparence extérieure, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est pas entièrement faux. Mais c'est pas entièrement vrai non plus. Imaginez que vous décidiez de vous mettre à la haute cuisine. Vous participez à Masterchef, vous remportez le concours, vous décidez d'ouvrir votre propre restaurant gastronomique et votre spécialité, ce sera la poularde aux truffes. Vous avez passé de longs mois à travailler votre recette et à choisir parmi les meilleurs produits du terroir pour que le résultat, ce soit un plaisir parfait pour les papilles. Est-ce que vous allez faire manger vos clients dans des assiettes en papier avec des couverts en plastique? Est-ce que vous allez accompagner votre plat de chips et de coca? Est-ce que vous allez passer du rap hardcore sur les enceintes du restaurant, à fond la caisse? Tout cela sous prétexte que ça ne change rien au goût de votre poularde aux truffes. Je crois pas, hein. Il y a des choses dont vous pourriez entourer ou accompagner votre poularde qui, en réalité, serait une insulte au travail qui a précédé, qui porterait donc atteinte à la fois à la dignité du plat et à la dignité de celui qui l'a préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez déjà mangé dans un grand restaurant, vous avez le choix ici en région lyonnaise, vous savez ce que je veux dire. Tout ce qui entoure le plat est censé mettre en valeur la qualité du travail qui a été accompli par le chef cuisinier. L'apparence extérieure, vous voyez, ça veut bien dire quelque chose. Mesdames et mesdemoiselles, la leçon est simple. Vous valez beaucoup mieux qu'une poularde aux truffes. Paul vous dit ce soir de renoncer à l'apparence extérieure qui vous est dictée par la culture du moment et qui parle d'égocentrisme, de cupidité parfois, de sensualité, bien souvent, et qui ne vous convient pas. Cela ne vous convient pas. À la place, prenez l'apparence extérieure que la Bible vous recommande et qui parle de votre Créateur, de son salut et de sa justice. Il y en a qui disent « Ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. » C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine fait l'habit. Il faut réfléchir, hein. Le moine fait l'habit. Si vous êtes chrétienne, ce texte ne vous laisse pas le choix en réalité. Vous devez vous habiller de manière décente, avec pudeur et modestie, et vous orner d'œuvres bonnes. Ce qui sera pour vous, d'après Dieu, la plus belle des parures. La plus belle des parures. Dieu, votre Créateur, est bien placé pour vous dire à vous son œuvre d'art, son chef-d'œuvre. Il est bien placé pour vous dire ce qui vous va bien et ce qui ne vous va pas. Est-ce que vous avez le désir d'honorer Dieu dans ce domaine? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous faites du shopping ou lorsque vous choisissez vos vêtements le matin, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui va motiver votre choix. Qu'est-ce qui va motiver votre choix de vêtements ce jour-là? Quel mode voulez-vous suivre? Quel message voulez-vous transmettre à travers votre apparence? Vers qui ou vers quoi votre apparence va-t-elle attirer l'attention? Ces questions méritent que vous vous les posiez, elles méritent aussi d'être discutées et abordées entre maris et femmes, et également entre parents et enfants. La vérité, c'est que dans votre garde-robe, mesdames et mesdemoiselles, il y a probablement des vêtements qui révèlent des parties de votre corps qui ne devraient être vues que par votre mari ou votre médecin. Je me souviens d'un prédicateur qui a surpris son assemblée au beau milieu d'un message, d'une prédication, en dépliant sous leurs yeux le poster central du magazine Playboy. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est que le magazine Playboy. Sauf que c'était un numéro de Playboy qui datait des années 60. Personne n'a été choqué. Vous savez pourquoi? Parce que la femme qui figurait était beaucoup mieux vêtue, beaucoup plus vêtue, que dans les publicités aujourd'hui que l'on voit, des publicités pour du jambon ou pour des voitures ou des aspirateurs, que sais-je encore. Ça, c'est la réalité. Quelles sont vos normes ce soir en ce qui concerne la pudeur et la modestie? Et d'où proviennent vos normes? D'où proviennent-elles? Qui les a fixées? Est-ce que vous savez que la popularisation de la mini-jupe ou du bikini, par exemple, c'est le pur produit de la révolution sexuelle des années 60 et d'une attaque déterminée contre les valeurs du christianisme? La façon dont vous vous habillez n'est pas neutre, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Réfléchissez à ce qui est convenable si vous êtes chrétien. Faites-le en couple, faites-le en famille, réfléchissez-y. Que communique ce décolleté? Que communique ce jean taille basse qui révèle le haut de mon slip? Que communique ce haut si court que l'on voit mon nombril? Est-ce qu'il est convenable que mes amis voient mon nombril? Ce vêtement va-t-il honorer la justice de Dieu ou va-t-il honorer la sensualité des hommes? Paul vous dit de vous vêtir de manière décente avec pudeur et modestie et de vous parer d'œuvres bonnes. Le verbe se parer ici dans le grec, cosméo, suggère à la fois la beauté, ça donnait le mot cosmétique par exemple, et l'ordre, le cosmos. La beauté et l'ordre, est-ce que votre apparence extérieure est caractérisée par la beauté et l'ordre de Dieu? C'est là la plus belle des parures. Mais poursuivons. Deuxièmement, dans la suite de ce passage, Paul nous livre un autre principe important au sujet de la féminité. Ce principe se trouve dans les versets 11 à 14, et c'est le suivant. Le rôle d'une femme doit respecter l'ordre voulu par Dieu. Le rôle d'une femme doit respecter l'ordre voulu par Dieu. Je ne sais pas si ce deuxième point est plus ou moins controversé que le premier, en fait. Vous me direz. Relisons ce qu'il dit là, à partir du verset 11. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Les deux maîtres mots dans ces versets, mes amis, sont silence et soumission. Non, ce n'est pas le Coran, c'est bien la Bible. Paul ne parle pas toutefois de silence et de soumission dans un sens absolu. Au verset 12, il explique qu'il s'agit de silence par rapport à la question de l'enseignement et de soumission par rapport à la question de l'autorité, et tout cela devant être considéré dans le contexte particulier du rapport entre les hommes et les femmes. La suite de l'épître, on le verra dans quelques semaines à partir du chapitre 3, la suite de l'épître montre que Paul est en train de penser particulièrement aux fonctions dans l'Église. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une femme ne doit pas avoir pour fonction dans l'Église d'enseigner à des hommes ni d'exercer l'autorité sur les hommes. Pour justifier cette différenciation des rôles, Paul en appelle à la nature d'une part et à l'histoire d'autre part. À la nature, en expliquant que cette hiérarchie saine et positive a été voulue par Dieu dès la création. Vous voyez, verset 13, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il en appelle aussi à l'histoire, en expliquant que cette subordination a été renforcée par Dieu dans une création déchue, suite au rôle qu'Ève a joué dans la désobéissance originelle. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est Ève qui a été séduite par le serpent, induite en erreur, tentée par le serpent, et elle, à son tour, a induit en erreur, et dans le péché, son propre mari Adam. Et ensuite, Dieu a dit, parce que tu as fait ça, la douleur de tes grossesses sera pire, tes grossesses seront douloureuses. Et ensuite il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Conséquence de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Paul est donc en train de dire ici que cette différenciation des rôles entre les hommes et les femmes doit être acceptée humblement, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pour des raisons créationnelles, on peut dire, et pour des raisons historiques. Je sais que cette idée est très choquante aujourd'hui. Très choquante. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire semblant que ça coule de source. C'est très choquant. Ce que Paul n'est pas en train de dire ici, ce qu'il n'est pas en train de dire, c'est que les femmes sont des êtres inférieurs aux hommes. En termes de valeur ou de dignité, il n'est pas en train de dire ça. Loin de là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a voulu qu'il y ait de l'ordre dans les rapports entre les hommes et les femmes. C'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre, c'est pas un Dieu d'anarchie. Il y a des privilèges et des devoirs respectifs qui ont pour cause d'une part l'ordre créationnel et d'autre part la malédiction du péché originel. Par exemple, aucun homme avec un brin de lucidité, je sais, ils sont rares, aucun homme avec un brin de lucidité ne contestera aux femmes le privilège qu'elles ont de porter leur bébé pendant 9 mois. Dans leur ventre, n'est-ce pas? C'est un privilège dont la cause remonte à la création et qui est liée à une réalité physiologique. D'accord? En même temps, les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement et toutes les autres peines de la grossesse font que c'est aussi une malédiction. C'est aussi une malédiction. Une malédiction dont la cause remonte à la chute, comme je le mentionnais il y a quelques instants, où Dieu a dit « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. » Est-ce que c'est une malédiction qui annule le privilège de pouvoir porter un enfant? Pas du tout. Une femme, c'est toujours une femme. De la même façon, Dieu a donné à la femme le privilège d'être une aide et un vis-à-vis pour l'homme. C'est le langage employé dans le livre de la Genèse, une aide et un vis-à-vis pour l'homme. Malheureusement, il y a aussi une malédiction, c'est que l'homme a tendance à dominer sur la femme. Est-ce que la malédiction de la chute annule le privilège de la création? Pas du tout. Paul est en train de dire, une femme, c'est toujours une femme. Un homme, c'est toujours un homme. Et de même qu'il y a des raisons physiologiques qui font que c'est la femme qui est censée porter le bébé pendant 9 mois, de même, il y a des raisons théologiques ou morales qui font que c'est l'homme qui est censé être responsable dans le couple et dans l'Église en particulier. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'information il y a 2 semaines, mais l'Assemblée nationale de notre beau pays a adopté une proposition de loi qui impose un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Vous voyez que l'enseignement de la Bible au sujet de la différenciation des rôles et des devoirs respectifs de l'homme et de la femme, l'enseignement de la Bible va complètement à l'encontre du discours politiquement correct aujourd'hui. Quel est votre modèle de la féminité ce soir? C'est Laurence Parisot, présidente du MEDEF, par exemple. Ségolène Royal, présidente du conseil régional de Poitou-Charentes. C'est qui votre modèle de féminité? Ramayad, secrétaire d'État? Hillary Clinton? Simone de Beauvoir? Marilyn Monroe? Céline Dion? C'est qui votre modèle de féminité pour vous? Je vais vous dire qui devrait être votre héroïne et votre modèle. C'est la Bible qui le dit. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, parle de la parure, lui aussi, qui convient aux femmes chrétiennes, et voici ce qu'il dit. Il dit que cette parure, c'est la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, dit l'apôtre Pierre, que vous êtes devenues les descendantes. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en tant que chrétienne, vous êtes les descendantes de Sarah. Voilà votre héroïne. Voilà votre modèle. Ce n'est pas pour dire, mesdames, que vous devez appeler votre mari Seigneur. Vous pouvez essayer, hein. Il sera peut-être pas contre, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous devez imiter l'exemple de Sarah, son exemple d'un esprit doux et tranquille, et de respect de l'ordre voulu par le Créateur dans les rapports entre les hommes et les femmes. Parce que cela, dit l'apôtre Pierre, est d'un grand prix devant Dieu. Ça ne vous dit pas de faire quelque chose qui est d'un grand prix devant Dieu? Ça veut dire que certaines fonctions dans l'Église, et je veux le dire clairement ce soir, certaines fonctions dans l'Église sont réservées aux hommes. Non pas par machisme, mais par respect de la volonté de Dieu et de l'ordre qu'il a voulu mettre dans les rapports entre les hommes et les femmes. Les anciens, les pasteurs, les prédicateurs, tous ceux qui président dans l'Église doivent être des hommes. Sachez qu'une femme qui prêche au culte ou une femme qui exerce l'autorité sur les hommes, c'est très laid aux yeux de Dieu. Mais sachez aussi que les hommes qui se déchargent de leurs responsabilités et de leurs devoirs sur les femmes, c'est aussi très laid aux yeux de Dieu. Est-ce que vous respectez l'ordre voulu par Dieu? Parce que c'est là le plus beau des comportements. Il reste encore une chose, troisièmement, dernièrement, Paul va nous livrer, dans ce dernier verset, verset 15, un dernier principe important au sujet de la féminité pour nous ce soir. Et ce principe, c'est le suivant. Les aspirations d'une femme doivent être conditionnées par l'éternité. Les aspirations d'une femme doivent être conditionnées par l'éternité. Relisons ce verset. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Ce seul verset a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. C'est un verset difficile. On a l'impression que Paul est en train de dire qu'il est difficile pour une femme d'être sauvée, mais qu'elle peut quand même peut-être l'être si elle accepte d'avoir des enfants. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. D'accord ? Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Et si on y voit un peu plus clair, le complément du verbe « sauver » dans cette phrase, ce n'est pas « en devenant mère », le complément du verbe « sauver », c'est « si elle persévère dans la foi », etc., etc. Vous comprenez ? Pour comprendre ce que Paul est en train de dire, je pense qu'on pourrait paraphraser ce verset de la manière suivante. Écoutez bien. Les femmes, dont la vocation ordinaire est de devenir mères, seront sauvées, sachez-le, si elles ont la foi et si elles y persévèrent, c'est-à-dire si elles ont une vie caractérisée par l'amour et la sainteté, et notamment la modestie. Je répète, d'accord ? Les femmes, dont la vocation ordinaire et de devenir mères, seront sauvées, sachez-le, si elles ont la foi et si elles y persévèrent, c'est-à-dire si elles ont une vie caractérisée par l'amour et la sainteté, et notamment la modestie. Ce que Paul est en train de faire ici dans ce verset 15, c'est qu'il est en train de prendre du recul en quelque sorte. Il est en train de prendre de la hauteur et d'élargir son propos. D'accord ? Au début de ce passage, il a parlé très spécifiquement de la parure d'une femme et du comportement d'une femme, particulièrement dans le cadre de l'Église. Mais maintenant, il finit sur un principe plus global, plus large, qui concerne la vocation générale des femmes. Et il veut inscrire cette vocation dans la perspective de l'éternité. Finalement, mes amis, tout ce que Paul a dit sur le rôle et le devoir des femmes, et tout ce que moi-même j'ai pu dire ce soir, tout ça est secondaire par rapport à ce qui va compter éternellement. Et ce qui va compter éternellement, d'après Paul, c'est de savoir si oui ou non on va être sauvé. Tout simplement. C'est comme si vous étiez un écrivain et que votre éditeur vous renvoyait votre dernier manuscrit avec toutes sortes d'obligations en ce qui concerne le style, la mise en page, de nombreuses corrections, un ou deux chapitres à écrire en plus, etc. Et que vous vous pliez à toutes ces obligations, à toutes ces exigences, juste pour découvrir quelques mois plus tard que l'éditeur a décidé de ne pas publier votre livre et que finalement personne ne va jamais lire tout ce que vous avez mis tant d'efforts à écrire. Alors je vais vous poser cette question, que vous soyez un homme ou une femme ce soir. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas chrétien ce soir, à quoi rime votre vie? C'est bien vrai que finalement vous pouvez vivre comme vous voulez, vous habiller comme vous voulez, vous comporter comme vous voulez, puisque votre vie n'a ni sens ni valeur en fin de compte. Mais la vérité, c'est que votre vie a tellement de valeur aux yeux de Dieu, que Dieu a payé le prix fort, le prix le plus cher qui ait jamais pu être payé, pour vous destiner à passer l'éternité avec lui, si toutefois vous lui remettez votre vie. Dieu a envoyé son propre Fils, son Fils unique et bien-aimé. Il l'a envoyé dans le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et il l'a envoyé mourir sur une croix afin de délivrer du mal et de la mort tous ceux qui se confient en lui, hommes, femmes et enfants. Et à vous, mesdames et mesdemoiselles en particulier, sachez que si vous remettez votre vie à Jésus, qui est ressuscité et qui a été élevé au plus haut des cieux, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, sachez que Dieu compte faire quelque chose dans votre vie. Il compte y faire quelque chose. Il compte vous rendre belle selon lui qui est l'inventeur même du genre féminin. Il veut vous revêtir de la plus belle des parures. Il veut vous appeler au plus beau des comportements. Et il vous adresse la plus belle des vocations, qui est avant tout de le connaître. Alors pour terminer, est-ce que vous appartenez, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a plus d'importance maintenant, est-ce que vous appartenez corps et âme à Jésus? Corps et âme à Jésus. Le dimanche comme le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à Jésus. Votre vie spirituelle comme la vie de votre garde-robe, est-ce qu'elle appartient à Jésus? Êtes-vous prête, mesdames et mesdemoiselles en particulier, à accepter la vocation que Dieu vous adresse, qui est d'abord, avant toute autre chose, à placer votre foi en Jésus, ensuite à persévérer dans cette foi qui a pour fruit l'amour et la sainteté? De plus, est-ce que vous êtes prête à reconnaître que la vocation ordinaire que Dieu vous adresse en tant que chrétienne, c'est une vocation d'épouse et de mère, comme Paul semble le suggérer au verset 15? Est-ce que vous êtes prête à reconnaître que le plus beau des comportements consiste à respecter votre rôle vis-à-vis de l'homme, notamment dans le cadre de l'Église? Est-ce que vous êtes prête à reconnaître que la plus belle des parures, c'est une apparence extérieure caractérisée par la pudeur, la modestie et les œuvres bonnes? Comme on l'a dit en introduction, la seule beauté qui compte, c'est celle que Dieu vous trouve. La seule beauté qui compte, c'est celle que Dieu vous trouve. La Bible nous livre un certain nombre d'éléments qui montrent ce qui est beau et féminin selon Dieu. Je sais que ce n'est pas évident de l'entendre parfois. C'est cela qui doit conditionner notre idée de la femme idéale. La définition de la féminité comme de la masculinité, et on aura l'occasion de parler des hommes, messieurs, dans les semaines à venir. Mais la définition de la féminité comme de la masculinité n'est pas laissée à notre imagination ou à la culture. Dans le langage de l'anthropologie ou de la psychologie, on appelle cela, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, l'identité de genre. L'identité de genre. Si vous êtes chrétien, sachez que la Bible définit votre identité de genre en fonction du sexe que vous aviez à la naissance. C'est pas compliqué. Hein ? Autrement dit, si vous étiez un garçon à la naissance, Dieu vous ordonne d'être masculin. Si vous étiez une fille à la naissance, Dieu vous ordonne d'être féminine. Et ces deux vocations respectives sont assez clairement définies dans la Bible. Je ne dis pas que c'est très très précis, mais c'est assez clairement défini dans la Bible. Ce qui constitue la masculinité et la féminité selon Dieu. Je sais que cette idée, comme je l'ai dit en introduction, elle est scandaleuse aujourd'hui. Et j'espère ne pas vous avoir choqué ce soir. Cette idée contredit non seulement la pensée unique de notre temps, mais aussi les prises de position des plus hautes instances européennes et même mondiales. Le saviez-vous ? Juste avant de terminer, laissez-moi vous lire un extrait d'un document intitulé « Droits de l'homme et identité de genre ». C'est un document qui a été publié en octobre 2009 par le Conseil de l'Europe, d'accord ? Par l'organe de son commissaire aux droits de l'homme. Le sacro-saint commissaire aux droits de l'homme. Et ce document, ce dossier est censé relayer auprès des pays européens les recommandations formulées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et dont le but de ce dossier est d'établir comme un droit inaliénable la possibilité pour chaque être humain de choisir non seulement son orientation sexuelle, mais aussi son identité sexuelle. Et voici comment ces documents définissent l'identité de genre, cette expression que je vous ai livrée. Voici ce qu'ils disent. L'identité de genre, c'est l'expérience intime et personnelle de son genre, profondément vécue par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres. Et d'autres expressions du genre, y compris l'habillement, le discours et les manières de se conduire. Fin de citation. La Bible est diamétralement opposée à cette définition. Selon la Bible, Dieu n'accorde pas aux êtres humains le droit de choisir leur identité de genre. Cette identité est liée au sexe assigné à la naissance. Cette identité implique un certain habillement, un certain discours et une certaine manière de se conduire, propre aux hommes d'une part et aux femmes d'autre part. La seule beauté qui compte, c'est celle que Dieu vous trouve. Et cette beauté commence, vous l'avez compris, je le disais tout à l'heure, cette beauté commence par le pardon de vos péchés rendu possible par la mort de Jésus à la croix et par sa résurrection. Est-ce que vous appartenez corps et âme à Jésus-Christ ? Amen.